c'est tellement mieux.
Salut! On est quoi? On est mercredi aujourd'hui?
Oui!
Ah, la semaine passe vite, précisément 10h01. J'espère que vous avez passé une belle matinée. Êtes-vous en lendemain d'élection? Il y en a qui ont écouté ça. Moi, j'ai pas écouté ça avec une grande attention. Là. Je sais que je vais te décevoir, Audrey, mais j'ai écouté la game de hockey du Canadien de Montréal.
Mais je te comprends parce que je suis entre les deux, là.
Ouais.
Fait que je comprends totalement, mais j'étais devant la TV, par exemple.
Ouais, c'est ça. Fait que j'ai écouté la game du Canadien de Montréal et par la suite, je regardais un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. J'ai fureté un peu sur RDI, sur LCN. J'ai vu que les mines étaient très basses.
Oui.
Et je me suis dit, coudonc, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Et en regardant les résultats ce matin, on a effectivement la réponse aux mines basses qu'avaient les gens de LCN et de RDI. C'est assez particulier comme élection, là, 330 millions d'Américains et les meilleurs candidats, c'était Kamala Harris et Donald Trump.
Ouais.
On aurait peut-être souhaité mieux pour cette puissance mondiale-là. Mais regarde, on va avoir un 4 ans à faire avec Donald Trump et on verra ce qu'il fera. Est-ce que ce sera mieux que son premier mandat? Moi, je pense que ça va être mieux que son premier mandat parce qu'il a déjà une expérience de 4 ans comme président des États-Unis. Il va avoir une équipe qui est, somme toute, de ce que j'ai vu, un peu plus forte que ce qu'il avait pendant son mandat de 4 ans. Puis Kamala Harris, ben on n'entendra plus jamais parler. Le Parti démocrate qui va se refaire de l'intérieur puis arriver avec un candidat peut-être ou une candidate plus forte pour les prochaines élections. J'ai bien hâte de voir qui sera le prochain candidat pour ce qui est des Républicains dans 4 ans. Ça va être franchement excitant, ces élections-là, parce que ceux-là ont été un peu tannés, on va se le dire.
Ah, mon Dieu, on a tellement entendu parler. C'est drôle parce que j'en jasais avec Hélo Derry, qui en ce moment est du côté de New York pour un trip en amoureux, OK? Puis j'ai demandé un matin, je disais, avez-vous senti quelque chose, tu sais, dans votre soirée, dans votre journée auprès des Américains? Puis elle dit, le seul mot d'ordre, là, c'est que le monde est vraiment tanné d'en entendre parler, les gens veulent passer à autre chose. C'est ça, c'est différent dépendant des états aussi, là, dépendant des convictions. Mais non, ça fait jaser énormément ce matin. Et puis la question que j'arrête pas de me poser depuis hier, c'est êtes-vous écœuré d'en entendre parler? Je veux dire, on le suit attentivement, ça fait partie de la job. Je sais pas si pour vous, ça a un impact ou pas, si vous avez suivi ça ou non, mais c'est vraiment le sujet de la machine à café. Là. On jase de tout depuis qu'on est rentré à matin.
Oui, les gens qui sont extrêmement fâchés, au Québec, du moins, aux États-Unis, visiblement, la majorité des Américains voulaient un Donald Trump en place. À tort ou à raison, on n'a pas à juger de ça. La démocratie a fait en sorte que c'est cet individu-là qui a été choisi comme futur président des États-Unis. On a tous hâte de voir s'il va être capable d'arrêter la guerre en Ukraine
oui,
en 24 heures.
Il paraît que c'est un coup de téléphone. Hein,
Poutine ne s'est pas encore prononcé sur Donald Trump. Le communiqué que j'ai vu passer de la Russie, c'est on va se fier sur ce que Donald Trump va faire plutôt que de le féliciter d'abord et avant tout. Sinon, le président de l'Ukraine qui a félicité Donald Trump, c'est sûr et certain que lui doit se demander qu'est-ce qui va se passer. Là, parce qu'avec Joe Biden, ça va bien. Il y a de l'argent qui est envoyé, qui est retourné aux États-Unis pour faire des armes, bien entendu, puis après ça, renvoyer ça en Ukraine. Mais avec Trump, Trump a dit que c'était terminé, que c'était pas sa guerre, puis qu'il n'enverrait pas les jeunes se faire tuer dans d'autres pays. C'est terminé, tout ça.
Ça amène beaucoup de questions.
Il semblerait que c'était un homme de paix, Donald Trump.
Oui, il paraît. il paraît. Par contre, tu vois, tu dis les gens sont fâchés ce matin.
Au Québec, oui.
J'ai la misère à comprendre. Fâché, je trouve ça... moi, je suis inconfortable. Ouais. Je suis troublée. Je comprends pas trop.
Ouais.
C'est pas quelqu'un que je respecte humainement. Fait que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à comprendre. En fait, c'est que pour moi, ça en dit beaucoup sur la population américaine. J'ai plus d'incompréhension face aux Américains en général que face à ce gars-là tout court, au
Écoute,
final.
Tu auras peut-être des réponses, parce que tantôt, vers 10h50, on va en avoir une Québécoise qui habite au Texas depuis plus de 20 ans. Elle s'appelle Julie Lesage. On l'appelle... Julie Texane Le Sage. Et c'est une fille qui parle dans les médias depuis quelques années, puis on la trouve franchement intéressante, donc on l'aura. On va parler aussi de synergologie.
Oui.
Quand je te parle, Audrey, puis t'as les jambes croisées, ça veut dire quoi?
Oui.
Ça a l'air que ça intéresse bien du monde, ça. Puis moi, j'ai des questions à poser, parce que souvent, le message que j'envoie avec ma face n'est pas nécessairement le bon message que je veux envoyer.
Je te comprends.
Puis je me l'ai fait dire souvent. Ouais. Souvent par mes patrons.
Ta face parle à ta place. Là.
Les patrons qui font des briefings ou des debriefings, là, moi, j'ai tout le temps comme une attitude de marde.
T'as une attitude un peu refermée, t'es méfiant, on dirait, physiquement.
Je parle pas, j'étais en mode écoute, puis j'ai de l'air à m'en sacrer éperdument. Alors que moi, dans ma tête, j'assimile l'information, puis je vais l'appliquer.
Ouais.
Mais ce que j'ai de l'air à l'extérieur est le contraire de ce que, comment moi je ressens les choses. Mm. Fait qu'on va parler avec un synergologue. Mais tout ça pour dire que aux États-Unis, on peut pas savoir ce que les Américains pensent si on parle pas avec des Américains ou si on parle pas avec des Québécois qui habitent en sol américain. Mais au Québec, les médias, ils sont pour quelque chose. À quel point on peut détester Donald Trump dans les médias, je trouve ça hallucinant. Moi, quand c'est factuel, tu sais, on parlait ce matin, toi et moi, au point de vue pénal, Donald Trump a été considéré comme coupable d'agression sexuelle puis a dû verser un certain montant.
Ouais.
Si c'était arrivé au Québec, mettons, moi, je t'avais pogné une cuisse, exemple,
ouais.
ben j'aurais probablement passé en cour, mais en cour criminelle.
Ouais.
Et jamais j'aurais pu me représenter après ça pour mais être le premier ministre du Québec. Ça aurait pas passé.
Moi, c'est des choses qui me dérangent.
Ça aurait pas passé ici. Mais là-bas, visiblement, ça semble passer parce que c'était pas criminel, c'était pénal et...
Mais ça prône l'action quand même dans ma tête.
Les gens de la communauté artistique, oui, mais je veux dire, des artistes qui ont été condamnés au pénal, là, t'as pas idée comment il y en a.
Ah, je
sais. Fait que les Américains sont habitués avec cette culture-là où, quand t'as de l'argent, quand t'es un artiste, ça se peut qu'il y ait des gens qui couchent avec toi puis qu'après ça, ils te réclament de l'argent. Mais tu sais quoi, ça se peut que ce soit des agressions sexuelles aussi.
Oui, ouais, totalement.
Fait que dans le cas de Donald Trump, c'est pénal, donc c'est fait, c'est inscrit, c'est factuel. Moi, j'ai pas de trouble à ce qu'on répète ça à tous les jours à TVA ou à RDI. Le problème, il est à la télé, je le vois présentement, là. Richard Latendresse, ce gars-là veut faire passer ses idées, ses opinions, avant l'information qu'il doit divulguer aux Québécois.
Mm.
Modifie la réalité ou modifie une citation ou modifie une vidéo pour la présenter sur une chaîne généraliste qui est assez sérieuse, là, comme LCN, comme TVA, puis présente ça comme si c'était un fait. Alors que clairement, quand tu écoutes le discours au grand complet de Donald Trump, c'était pas ça pantoute qu'il voulait dire. Mais quand Richard Latendresse te le présente, c'est il veut voir une femme devant un bataillon pour se faire tirer dessus.
Ouais.
Mais c'est pas ça qu'il disait. Donald Trump, dans la vidéo, avait un discours de genre de peace and love des années 60, c'est-à-dire, savez-vous quoi? C'est tout le temps l'élite qui envoie les jeunes partout dans le monde faire la guerre, mais eux, ben, ils n'iront jamais faire la guerre. Puis je serais curieux de voir cette femme-là devant un bataillon, voir si elle aimerait ça faire la guerre. Ça change l'histoire, là.
Ah, 100%. Le problème... Ça, c'est des deux côtés, là, je veux
dire. On fait confiance, du côté de Québécois, à Richard Latendresse, qui s'est fait prendre plusieurs fois avec des fake news. Puis les gens, ce qu'ils détestent, c'est pas de se faire dire la vérité, c'est pas ce qui est factuel.
C'est qu'il y a une ligne de pensée tracée d'avance.
Ce qu'ils détestent, c'est qu'il y a une ligne de pensée.
Mais c'est ce qu'on reproche beaucoup aux médias au Québec, tout court.
Puis Tipouel. Tu te souviens-tu de Tipouel? T'étais pas né quand il avait dit ça, mais Tipouel a dit quelque chose. Moi, j'adorais René Lévesque dans le temps, là. Puis Tipouel a toujours dit « Méfiez-vous des gens qui prétendent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime.
Mm. »
Puis on en a beaucoup trop dans les médias qui se présentent comme étant l'élite, puis qui détestent absolument tout ce qu'on aime, nous. Ils n'aiment pas notre façon de vivre, ils n'aiment pas notre façon de voir les choses. Puis eux, plutôt que de nous rapporter du factuel quand ils sont journalistes, pas quand ils sont éditorialistes ou animateurs de radio ou un gars comme Stéphane Bureau qui, lui, donne son opinion ou Mathieu Bock-Côté donne son opinion. Quand tu es journaliste, ça doit être factuel. Puis il y en a beaucoup trop des journalistes qui se tassent un peu du factuel, qui font de l'opinion, puis qui il manque
ouais, ben ça, c'est
parce
un courant,
qu'ils pensent détenir la vertu. Mais ça ne devrait pas être ça, parce qu'ils sont en train de scraper notre métier.
Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le journalisme en soi se perd beaucoup pour mille et une raisons. Il y a des raisons d'argent là-dedans, il y a des raisons de... Tu sais, je pense que le journalisme qui se faisait à l'époque où on envoyait des gens monter des dossiers de toutes pièces, puis présenter justement seulement des faits sans opinion, j'ai plus l'impression que ça existe beaucoup. C'est des modes, hein, je veux dire. Là, la mode est à l'opinion, est à crier fort ce que tu penses.
Okay.
C'est à donner un billet à tes textes, c'est ce qu'on fait en ce moment. Je te parle pas de ce que c'est bien ou c'est pas bien, mais moi, je pense fondamentalement que le journalisme disparaît. Le journalisme de base, le vrai ouais. journalisme, ce pourquoi les gens étudiaient, puis en faisaient des carrières et étaient envoyés à l'étranger, tu comprends? Ça se perd, puis il y a un peu de notre faute là-dedans aussi. Là. Tu
oui.
on parle d'information régionale, là. Ça se perd ça aussi, là.
Ouais,
ça fait partie du problème.
Mais je pense, puis je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'il va y avoir un retour à la normale. À un moment donné, les médias vont se poser des questions à savoir, mais pourquoi les gens ne nous font plus confiance, puis ils font plus confiance à des influenceurs, exemple,
ben oui.
Qui n'ont aucune notion de journalisme et tout ça, à TikTok
ben
ou
oui,
ces affaires-là.
Ben,
les médias devront se doter de gens qui se disent, OK, savez-vous quoi? Moi, j'ai des opinions, mais je suis journaliste, fait que je vais vous présenter la réalité telle qu'elle est. Ma job à moi, c'est de rentrer dans une pièce, ouvrir la lumière, puis vous décrire exactement ce qu'il y a dans la pièce, sans sélectionner des choses que je veux sélectionner, puis vous cacher, tu sais.
Ouais.
Sans faire ça. Puis on a ça à RDI, on a ça à LCN, Puis je pense qu'ils vont devoir se regarder dans la face en disant « OK, visiblement, on a des journalistes qui sont des activistes, qui sont des militants, qui font du journalisme pour des mauvaises raisons. On va juste les tasser, puis on va les remplacer peut-être par des plus jeunes ou des journalistes d'expérience qui sont là pour le factuel. Puis au travers de ça, on mettra des Mario Dumont, exemple, qui peut donner son opinion parce que c'est un animateur, Mario Dumont, c'est pas un journaliste. Puis les gens vont voir « OK, bien, M. Dumont pense telle ou telle affaire parce que telle affaire. » Les gens sont intelligents.
Ah, mais on est influencé facilement aussi, puis c'est normal.
Là, ce qui se passe, là, c'est que dans les médias, l'individu aux États-Unis qui était le plus détesté, c'est Donald Trump. Mm-hmm. Dans les médias du Québec, l'individu qui est le plus détesté actuellement, c'est Pierre Poilievre. Breaking news, c'est les deux qui vont être élus aux prochaines élections. Donald Trump va prendre place dans quelques temps. Il n'est pas encore là. Ça va être Joe Biden qui va être président des États-Unis pendant un certain temps jusqu'à son assermentation. Mais Pierre Poilievre va rentrer. Puis vous ne vous demandez pas pourquoi c'est les gens qui sont les plus détestés des médias puis c'est eux qui rentrent en place. C'est la population qui est écœurée de vous autres. C'est une claque sur la gueule qu'on donne aux médias en disant « On le sait que vous nous mentez. » On le sait que vous faites passer vos propres intérêts à vous autres avant les nôtres. Bruno Marchand fait passer ses propres intérêts avant les intérêts de la population. Mais dans les médias, tout le monde aime Bruno Marchand. Puis si tu es dans un média, puis tu dis, écoute, moi, les politiques de Bruno Marchand, là, de tout le temps se mettre de ce bord-ci plutôt que de ce bord-là, de ne pas nécessairement faire ce que la population lui demande, puis d'aller sens contraire, ben tu te fais regarder de travers. Tu te le fais dire. Puis des fois, il y a des auditeurs qui m'écrivent en me disant, tu sais, Yann, c'est le fun des pistes cyclables. J'ai jamais dit le contraire. Mais quand tu fais des pistes cyclables partout, puis il n'y a pas un astifi de chat sur ces pistes cyclables-là l'hiver pour déneiger, moi, ça me dérange. Mm-hmm. Fait que pourquoi, dans les médias, les politiciens qui sont les plus détestés, c'est les politiciens qui vont être réélus? Trump va passer comme président. Poilievre va passer comme premier ministre du Canada. Puis je t'annonce que Marchand ne repassera pas, là. À Montréal, Valérie Plante n'aurait pas repassé non plus si on en croyait les sondages. Les gens étaient très insatisfaits de son passage.
Mais je comprends
la
corrélation que tu fais, Yann, mais je pense pas que c'est juste une question, par exemple, de médias.
OK, mais explique-moi pourquoi les médias représentent pas un peu ce que la population pense.
Ah, mais ça, je te suis carrément. Je ne te
soutiendrai
jamais là-dessus.
Il est là, mon point.
Mais tu sais, mon point, c'est que je veux dire, si c'est un autre parti qui est élu, c'est pas que par les médias. C'est une question qu'on n'est pas satisfait non plus du gouvernement qu'on a en place, tu sais. C'est juste ça, mon point. Puis, je veux dire, oui, on a une lignée puis une façon de faire les choses dans les médias au Québec qui fait que... Puis, coupable, je pense que la majorité des gens peuvent plaider aussi coupable d'être influencés par les discours qu'on entend ici, tu sais. Trump, moi, j'avais un espoir qui passe pas hier par tout ce que je peux penser de cet homme-là, mais je me rends compte aussi à parler avec des gens que, ben il y a des raisons précises pour lesquelles on l'a élu hier. Puis ça fait partie de ma première question pour Julie, à qui on va parler tantôt, là, qui est cette Québécoise-là qui habite au Texas depuis 21 ans puis qui a voté pour Trump, là. C'est pourquoi? Pourquoi les Américains votent pour Trump? Parce que visiblement, il nous manque quelque chose ici, là. Pour que les gens veulent autant voir cet homme-là au pouvoir, il y a clairement une information qu'au Québec, on n'a pas, là. Parce que moi, j'aurais jamais voté pour cet individu-là, ouais. Tu sais. Fait que je crois effectivement qu'il nous manque des informations puis que l'information se passe peut-être pas toujours bien. On retient bien ce qu'on veut retenir aussi. On fait les choix de ce qu'on met dans nos journaux, mm-hmm. de ce qu'on dit à la radio, de ce qu'on met de l'avant. Puis ça, oui, je suis d'accord sur le fait que c'est problématique, sur le fond, à 100%.
Donc, posons-nous la question, quand on est un média, là, que ce soit un média généraliste, que ce soit un média local, pourquoi ce que la population peut désirer, ce que la population peut penser, c'est pas représentatif dans nos médias à la grandeur du Québec. Je trouve ça un peu gênant. Puis visiblement, bien, c'est comme ça aussi au Canada. Et visiblement aussi, c'est comme ça aux États-Unis.
Oui, il y a un problème.
Fait qu'il y a vraiment un problème, puis on doit s'ajuster. Moi, j'ai pas écouté ça, bien. Fait que j'en ai parlé assez.
Oui, bien, c'est pas notre mission principale. Fait qu'on va essayer de se changer les idées. Vous allez en entendre parler de toute manière. C'est couvert de bord en bord dans tous les médias aujourd'hui. Puis c'est normal qu'on en fasse l'analyse. Ça va avoir des impacts sur nous aussi, veut pas, là. Mais je pense qu'on peut passer à autre chose.
Oui, Canadien, quatrième défaite de suite.
Ouch, hein?
Audrey, quatrième défaite de suite du Canadien. Cette fois, 3-2 en prolongation face aux Flames de Calgary. Brendan Gallagher et Joel Armia qui ont marqué pour le tricolore. Samuel Montembeau qui a réalisé 32 arrêts. Prochain match. match, c'est pas ce soir, c'est jeudi. Voilà, donc on sera à l'écoute jeudi pour une autre défaite du Canadien de Montréal qui va pas très bien.
Je suis assez contente, j'étais présente à la dernière victoire.
Oui!
Contre les Blues de Saint-Louis.
Y avait-tu de l'ambiance?
Ah mon Dieu, Yann, il y avait tellement d'ambiance. Ouais. Ça faisait des... ça devait faire comme 15 ans que j'étais parlé au Canadien. J'étais vraiment chanceuse plus jeune parce que par le travail de mon père, on avait accès à aller au Canadien plus souvent qu'autrement. Fait que j'étais allée quelques fois sans me rendre compte vraiment peut-être de la chance que j'avais d'être là au final. Là. Mm-hmm. Puis quand je suis allée là, il y a 2-3 semaines, là, un plaisir sincère et fou. Là. Les gens sont dedans. Je veux dire, le DJ qui est sur place, il y a une ambiance, le monde est heureux. C'est beau aussi ce qu'ils ont fait au Centre Bell. Puis ce qu'ils font visuellement, c'est capoté. Là. Fait que non, du gros plaisir. Puis je veux dire, le Canadien a marqué en premier, fait qu'on avait droit à de la piste gratuite. Puis ils ont compté 5 buts, fait qu'on avait droit à des ailes gratuites.
C'est
fait
vrai?
Que c'était le bonheur, là, tu comprends?
Les cheap, toi.
C'était le bonheur.
Ça avait-tu coûté bien cher?
Je vais être très honnête avec toi. Nous autres, on a été très chanceux, on a été invités.
Ah!
Fait que ça n'a pas coûté une scène, mais les billets qu'on avait, on avait pour 1000$ pour notre soirée. Là.
Ouais,
c'était
c'est
des
ça.
Bons billets, fait qu'on a été chanceux.
Nous autres, on va régulièrement au Rempart, puis on a un beau show au Rempart
ben
de
oui.
Québec. C'est
pas cher, en passant.
C'est pas cher. T'sais, moi, je me stationne pas dans le gros stationnement. Là. Je me stationne dans les rues avoisinantes. Fait qu'en plus, j'économise sur le parking. Je sais pas s'il est payant, le parking au Rempart. Est-tu payant?
Oui, il est payant.
Il est payant. Mais bref, je me rappelle. Ça me coûte pas cher d'aller au Rempart, puis on a quand même un très bon spectacle.
Moi, je vais sur le bout de gazon à côté qui coûte pas une sienne. Tout le monde le prend à chaque fois, puis je suis comme, on peut dire que c'est un parking établi,
ouais,
c'est ça, là.
Puis là, de dépenser 500-600$ pour aller là avec mes gars, ça me tente pas pantoute.
Je comprends.
Peut-être que je vais attendre d'avoir comme un gros club de la NHL là, qui va débarquer. Là,
Mais c'est une solide expérience.
Ouais. Mon gars trippe beaucoup sur Alexander Ovechkin. Mm-hmm. Fait que si les Caps, ils redescendent à Montréal, puis je suis capable d'avoir des billets, je vais le faire. Mais 600$, c'est beaucoup.
Hey, c'est vraiment cher. Pour vrai, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi plein parce que moi, j'ai pas le budget. Puis c'est drôle parce qu'ils ils mettent de l'avant les gens, mettons, qui ont des passes saison depuis des années. T'sais. Puis t'avais un monsieur là, que ça faisait comme, je pense, depuis genre 69, le style, qui avait ses passes saison du Canadien.
Ouais.
Il est assis première rangée, tu comprends, devant à vide de la glace. Là. Puis il est là à tous les matchs. Là. Mais c'est un montant astronomique que ça y coûte. Mais il y a des gens qui sont fans finis, qui sont de vrais partisans, beau temps, mauvais temps,
ouais.
Carrément. C'est beau à voir, pour vrai, mais les gens sont super impliqués, sont déguisés. Ça s'achète des chandails à 200$ et plus, tu comprends, à la petite boutique du Canadien. Nous autres, on a juste eu les moyens de s'acheter la patente en mousse à 10$. Là. Mais bon, on a trouvé ça le fun. On a eu beaucoup de plaisir à jouer les touristes.
Ouais.
C'est une expérience vraiment trippante.
Mais c'est ça. Quand moi, je suis un cheap, là.
Ouais.
Fait que quand je dépense 600$, je me dis que ça m'a pris 1200$
ouais.
de salaire pour payer ce 600$-là. Fait que quand mes gars disent « On peut-tu avoir le Canadien? » Ça me tue un peu de
je
payer
comprends.
Ça.
Je comprends. Mais tu reconnectes avec le... Puis là, ça, je vais parler personnellement, mais moi, cette soirée-là, j'ai comme un peu reconnecté avec le sport. Franchement, je suis pas une fan du sport à TV.
Ouais.
Ça m'emmerde. Il n'y a pas d'ambiance. Je suis seule dans mon salon. Je sais pas, je le ressens pas. Je devais être celle qui criait le plus fort cette soirée-là, tu comprends? J'étais impliquée, puis je l'ai pas manqué d'une seule fois à la POC. Là. J'étais toute là.
Puis mais... t'écoutes-tu les matchs de hockey à télé?
Je les écoute d'un œil avec mon chum. Ça m'emmerde à TV. J'essaye.
Mais sur place, t'aimais ça?
Ah, mon Dieu, je capote. Mais moi, okay. le côté événement, ambiance, puis
ouais.
Là, tu joues à la partisane d'un soir. J'ai trippé. On était mort de rire.
Mais
là.
C'est vrai que ça fait la différence.
Ben,
depuis, tu sais, l'ancienne équipe qui était à l'animation des Remparts, tu sais, ils faisaient une belle job, là. C'était Carl Labrie qui était là avec son « Wouh! » C'est
ouais.
Le but des Remparts, tout ça. Mais la nouvelle équipe d'animation avec Gab Marino,
ouais,
notre
puis,
collègue,
puis toute la gang,
ça
là,
fait
Ray,
une différence dans l'amphithéâtre. Là.
Ah, solidement. C'est vraiment bon ce qu'ils font. Puis je veux dire, visuellement aussi, je trouve ça trippant. On est chanceux pour vrai.
Oui, puis la vitesse de jeu aussi. Oui. Quand tu écoutes ça à télé, ça n'a pas de l'air si vite que ça. Quand tu es sur place, puis tu vois s'effoirer dans les
mains.
Oui, c'est très impressionnant. 10h19, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. C'est 19 degrés sur 15. Québec.
Il fait chaud aujourd'hui, j'ai même pas mis de manteau.
Qu'est-ce qui se passe? Nuageux pour aujourd'hui avec quelques éclaircies. C'est ce qu'on a actuellement dans le secteur Le Bourgneuf. Maximum de 17, donc on l'a dépassé. Ce soir, cette nuit, c'est quelques averses, minimum de plus 3. Jeudi, ciel dégagé, maximum de 7. Et vendredi, ce sera nuageux avec 40% de probabilité d'averse, maximum de 8 degrés.
Yo, sur les routes, quelques problèmes. Il y avait un incident un peu plus tôt qui fait qu'il y a encore quelques ralentissements à l'entrée des ponts direction nord. Si vous êtes sur Guillaume Couture, deux directions à l'entrée des ponts, c'est vraiment difficile également. également. Là. Pour l'instant, ça roule quand même bien sur la rive nord. Il y a Charest direction est entre Henri IV et Robert Bourassa où il y a quelques ralentissements, mais il faut le dire vite. Là. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-102, un texto, ben, bienvenue dans l'Open Mic, les copains.
Belle voiture, les Dale Howell Jack sur les ondes de boulevard. 10h29 minutes. Es-tu une fan de séries américaines?
J'aime quand même, mais tu le sais, hein, je suis pas une grande cinéphile et fan de séries à la base.
As-tu déjà vu la série Lie to Me?
J'en ai entendu parler.
Il y a un gars qui est là-dedans, qui est capable de détecter, en te regardant parler, à la façon dont tu te positionnes, le regard est capable de détecter si tu lui mens ou si tu lui dis la vérité. Puis c'est une série qui avait attiré pas mal l'attention parce que ça mettait la visibilité sur un métier qu'on connaît très peu, les synergologues.
Oui, puis je veux dire, c'est précis et pointu quand même.
Il y en a il y a beaucoup de synergologues en Europe. Je ne sais pas s'il y en a énormément en Amérique, mais pour ce qui est du Québec, on en a quelques-uns. Et on a le plaisir d'en accueillir un aujourd'hui. Son nom, c'est Manuel Constant. Il est synergologue, expert du non-verbal. Je pense qu'on peut dire ça de lui aussi.
Ben oui, en bon québécois, je pense que c'est plus facile pour les gens à comprendre. Là. Emmanuel, je t'en te débaptiser en partant. Ça va pas bien. Manuel, bon matin!
Bon matin, vous deux.
Merci d'être là. Comment, toi, Manuel Constant, t'en es venu à t'intéresser au métier de synergologue?
Ah, moi, ça date de tout jeune. En fait, j'étais très, très, très intéressé par le comportement humain. J'ai eu un parcours très, très, très atypique, mais tout ce qui était psycho-anthropologie, psychométrie, puis un jour, la synergologie, ça s'est imposé à moi.
OK. Mais ça fait combien d'années que tu pratiques ce métier-là?
7-8 ans à peu près.
7-8 ans, donc. C'est-tu arrivé en même temps que la fameuse série Lie to Me ou t'as commencé avant?
Ben moi, contrairement à beaucoup d'autres, j'ai écouté la série après m'être formé. Okay. Y a beaucoup de gens qui, après avoir écouté la série, se sont formés. Moi, ça n'a pas été mon cas.
Puis, t'as-tu remarqué qu'il y avait des défauts dans cette série-là? Est-ce qu'on coupait les coins pas pires?
Ben, c'est sûr qu'on est, c'est Hollywood, hein, donc c'est très, très, très romancé. C'est drôle parce qu'à la fois, dans la vie, on peut, quand on est assez ferré là, avec le métier, on peut voir encore plus de choses que ce que l'acteur principal voyait dans ses trucs, sauf qu'il y a quelque chose qui nous distingue vraiment dans la vie de tous les jours, c'est que lui avait une attitude très confrontante, très arrogante. Tu sais, c'est moi qui sais, puis je te vois, puis je te devine, là, finalement. Ouais. On est très loin de ça, en fait, en synergologie, parce qu'il faut poser des questions pour valider ou invalider nos théories, toujours.
Écoute, on a 1 million de questions, puis si les auditeurs ont des questions aussi, 418-971-1021, 418-971-1021, on est avec quelqu'un qui est synergologue, qui est un expert du non-verbal, donc si vous avez des questions, textez-nous, puis on va les passer à Manuel.
Comment tu deviens expert, en fait, du langage corporel? Parce que je comprends le principe de la synergologie, en même temps, on dirait que j'essaie de réfléchir à ce que tu apprends, mettons, pendant tes études, là, puis j'ai de la misère à m'imaginer. Parce qu'au final, on a tellement tous des personnalités différentes, des aspects différents. Je veux dire, il n'y a personne qui réagit de la même façon. Les gens gênés qui vont avoir des comportements qui peut-être veulent dire quelque chose normalement, mais qui au final, pas tant. T'sais, on dirait que c'est tellement complexe, j'ai de la misère à comprendre exactement comment tu peux devenir expert du langage corporel.
Tu as soulevé plusieurs points très intéressants dans ta remarque et ta question. Premièrement, on peut devenir expert du langage corporel. Tu sais, c'est pas légiféré, hein, c'est comme le coaching. Donc, je veux dire, demain matin, quelqu'un peut dire qu'il est expert du non-verbal, puis les gens vont le croire sur parole. Il y a plein de chemins qui mènent à Rome, donc dans ce cas-là. Moi, mon parcours en synergologie a été d'une durée de 3 ans, donc c'est quand même pas négligeable. Puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est des tendances comportementales, hein. c'est pas des clés, c'est pas une science absolue. Donc, on est en sciences sociales, un peu comme la psycho. Donc, c'est des indices, des indicateurs, c'est toujours des tendances. Mais dans les tendances, il y a des tendances qui se dégagent de ça, qui sont assez fiables, relativement fiables. Donc, on parle d'un taux de fiabilité d'environ 80-90% pour la plupart des indicateurs, là.
Ah, c'est très bon. Puis, écoute, Manuel, moi, j'ai déjà eu le même reproche de tous mes employeurs, OK? Dans des conférences, quand il y a une réunion d'équipe et tout ça, je suis pas mal tout le temps en mode écoute dans ma tête, là. Je suis en mode écoute, mais ce que je laisse croire à mes patrons, ça m'a souvent été reproché, c'est que je semble être totalement détaché des choses que les patrons peuvent me dire.
Indifférent.
Alors que c'est tout à fait le contraire. Puis c'est pour ça que les patrons me prennent la peine de me dire, parce qu'ils me disent, tu sais, quand on te rencontre en réunion avec toute la gang, tout en équipe, t'as de l'air complètement détaché, t'as de l'air désintéressé, mais t'appliques les choses qu'on t'a demandé. Mais quand on te voit en situation où tu devrais comme être très ouvert, avec les deux coudes sur la table, puis dire oui, patron, j'envoie le signal contraire de ce que je voudrais envoyer. C'est-à-dire, j'aimerais ça que, moi, que mes patrons sachent que je les écoute, mais ma face dit tout à fait le contraire. C'est comme si ma face s'en fichait. Tu perçois ça comment?
Mais d'abord, j'ai une question pour toi, Yannick. Est-ce que tu serais prêt à dire que les gens te disent que tu as peut-être peu d'expression faciale dans la vie?
Ouais, c'est ça, ouais.
Bon, mais ça, c'est un peu un problème quant à la gestion des attentes des gens. C'est-à-dire que toi, il n'y a absolument pas de problème, là. Je veux dire, moi, j'ai le même problème, entre guillemets. Moi, à la maison, mon surnom, c'est la face de plâtre, pour vous donner une idée. C'est pas nécessairement un compliment, mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que les gens qui ont moins d'expression faciale, c'est pas un défaut ni une qualité. C'est juste que dans la tête des gens, ils s'attendent à ce que on soit un peu plus comme la plupart des autres humains, puis qu'on ait plein d'expressions faciales. Et donc, comme il y en a moins, quand eux s'attendent à ce qu'il y en ait, ça pose problème pour eux.
Mais est-ce que ça se
contrôle? Dans l'interprétation de ton... Pas vraiment, non. La vraie... pour faire une réponse courte à ça, est-ce que le langage corporel se contrôle? C'est très, très, très peu, puis c'est très inefficace, voire contre-productif. Donc, la réponse courte, c'est non.
OK. Mais est-ce que, en jasant avec un synergologue, là, je pourrais-tu développer des trucs, justement, dans ces fameuses réunions-là, pour que mes patrons disent « Ah, ben il y a de l'air plus réceptif qu'avant, tu sais. Y a-t-il quelque chose qu'il faut que je change? » Parce qu'honnêtement, tu sais, j'ai toujours été de même. Je suis très relax dans la vie. Fait que quand je suis en mode écoute, là, je peux être, tu sais, les jambes bien écartées, effoirées sur le siège, les deux coudes sur les accotoirs.
Mais c'est vrai, Emmanuel, parce que je te jure, j'ai ce sentiment-là par rapport à Yann, même en one-on-one. Là. Des fois, j'y parle et je suis comme, OK, il s'en fout complètement de ce que j'essaie de dire en ce moment.
Mais dans le fond, Emmanuel, pas en tout. C'est juste que je suis en mode écoute, mais j'ai l'impression des fois que je fais mal les choses. En discutant avec un synergologue comme toi, tu pourrais-tu m'aider justement à essayer de travailler un peu sur ma façon d'être?
Moi, je te rassure que tu ne fais pas mal les choses. En fait, il n'y a personne qui fait mal les choses. Que le langage corporel d'un individu X, à un moment donné, dégage, c'est ce qui l'habite à l'intérieur. Donc, il n'y a rien qui est mauvais ou négatif là-dedans. Donc, en fait, on a le pouls de la personne. C'est-à-dire que si toi, tu es tranquille, tu es très dans ta tête, tu es cognitif, tu écoutes quand même, tu n'es pas obligé d'être hyper... stimulé, intéressé ou très démonstratif là-dedans. Mais encore une fois, on en revient aux attentes des autres. Donc, moi, ce que tu pourrais avoir comme truc en me consultant, c'est pas pour changer ton propre langage corporel, ce serait pour interpréter celui des autres. Et j'en arrive à dire qu'au final, ça servirait peut-être pas mal plus à tes patrons, puis là, je veux pas me faire chicaner par eux. ça servirait peut-être plus à eux pour te comprendre, okay. Toi, parce que ton langage corporel, il n'est pas incorrect. Okay. Il est juste différent de ce à quoi il s'attend.
Puis là, on embarque peut-être un peu dans la psychologie, qui est une autre discipline, mais j'ai l'impression des fois que les gens qui ont moins confiance en eux peuvent essayer d'aller chercher des signaux. Tu sais, quand la personne dit quelque chose de drôle, elle s'attend à ce que la personne qui soit en face éclate de rire ou est comme les petits yeux bridés, là, comme quoi « Ah, ce qu'il est en train de dire là, c'est coquin, c'est drôle. » Moi, j'ai pas toujours ces expressions faciales-là. Fait que si la personne n'a pas confiance en elle, ça peut être un peu difficile. Question un peu plus personnelle, Manuel. Quand tu es avec ta famille, es-tu encore synergologue ou tu laisses ta job de côté?
Je laisse ma job de côté, mais en même temps, c'est un peu comme quelqu'un qui a appris une seconde langue, admettons l'anglais. Je veux dire, tu peux pas désapprendre l'anglais. Donc, quand quelqu'un parle anglais, tu le sais. Ben moi, quand je vois les gens, je les vois quand même. Donc, c'est juste que j'interviens pas. J'en fais pas grand-chose, à moins que je considère qu'il y a un enjeu comme, par exemple, une bombe conjugale qui s'en vient ou un truc comme ça.
Et avec les enfants, es-tu capable de détecter les mensonges? Quand c'est les tiens, mettons, je sais pas si t'as des enfants.
Oui, j'en ai, mais là, ils sont rendus, sont déjà partis de la maison, donc c'est des adultes. Oui, on est capable. Là, ça devient une question un peu plus complexe, là, puis on n'entrera pas trop là-dedans pour pas endormir les auditeurs, mais le langage corporel, il y a une petite partie de nez, mais il y a une grosse partie d'acquis. Okay. Et je dirais que l'acquis de ça se fait, c'est une transition lente, là, mais alentour de l'âge d'adolescent. on commence à avoir acquis pas mal les signaux. Je vais donner un simple exemple, là. Le fait de dire aux gens que ça va, quand ça va pas, ben, tu sais, ça, c'est une façon de dire quelque chose avec sa bouche puis d'envoyer d'autres signaux avec son corps. Mais ça, les enfants qui sont très, très, très jeunes, ils vont pas mentir là-dessus. Quand ça va pas, ils vont le dire.
Puis est-ce que, fait que c'est pas un mythe, là, le fait que vous pouvez littéralement détecter le mensonge? Parce que j'ai entendu de certaines personnes que non, c'est pas vrai ça. Puis de d'autres que oui, on peut vraiment savoir quand quelqu'un nous ment. Puis que ce serait même utilisé dans des techniques, là, au niveau de la police. Puis fait que c'est vrai, là.
En fait, c'est vrai, mais c'est surévalué. Dans le fond, encore une fois, on se base sur des tendances qui fonctionnent relativement bien, mais il faut être dans un contexte hyper contrôlé. Donc, dans une salle d'interrogatoire, ça va. On est capable de déceler la plupart du temps quand quelqu'un ment ou d'en avoir une idée. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours ce contexte-là. On ne peut pas mettre une lampe dans le visage de quelqu'un, puis l'asseoir, puis le diriger avec des questions. Les gens s'enfuient de ça. Donc, on a des idées, on a des tendances qui nous aident. Mais c'est surévalué. Puis souvent, les gens qui ont ces compétences-là vont un peu, pardonnez-moi l'anglicisme, mais les flasher. Parce que les gens, avec leur ego, ils aiment bien ça, se sentir spéciaux, puis très, très, très compétents. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tant que ça.
Puis est-ce que mettons qu'on y a-t-il des signes? Tu sais, moi j'ai beaucoup entendu mettons les gens qui fuient le regard ou qui vont regarder à gauche parce qu'ils sont en train de pas être totalement honnête avec toi. Est-ce des choses sur lesquelles on peut se baser? Y a-t-il des signes comme ça qui sont francs pour vous?
Non, ça c'est, j'irais même jusqu'à dire que c'est de la pseudo-science, là. C'est tellement radicalisé, tellement sursimplifié que ça ne fonctionne pas du tout, là. Il y a mille et une raisons pour lesquelles on peut regarder, par exemple, à droite. C'est tout décortiqué en détail, en synergologie, mais il faut les connaître, ces raisons-là. Donc, c'est pas en écoutant quelqu'un nous parler ou sur YouTube ou en lisant un livre qui nous dit « regardez à droite », ça veut dire que la personne ment. C'est pas comme ça qu'on détecte le mensonge. C'est trop simple.
C'est comment qu'on le détecte?
Voulez-vous vraiment des tendances là,
Ben
présentement? Je
oui,
peux en nommer quelques-unes.
Je suis vraiment curieuse.
On aime ça, puis d'après moi, les auditeurs viennent de monter le son dans la voiture.
Ben parfait, je vais en nommer quelques-unes. Gardez en tête avant que je commence que c'est des tendances, ce n'est pas une science absolue. C'est juste des aides pour peut-être imaginer que quelqu'un pourrait mentir.
Okay.
Bon, c'est très sursimplifié. Quand quelqu'un ment, la plupart du temps, on pense, on entend dire que la personne va détourner leur regard. Non seulement c'est faux, mais c'est plus l'inverse que d'autres choses. La plupart du temps, quand on ment, on va regarder la personne dans les yeux parce que la première chose qu'on doit faire, c'est on doit savoir si elle a gobé notre mensonge. Parce que si je suis en train de te mentir, puis je considère que par ton expression faciale ou ton langage corporel, tu n'as pas encore gobé mon mensonge, bien, je vais continuer à beurrer la tartine. Alors qu'à l'inverse, si je considère que tu as gobé mon mensonge, bien, je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais ajouter de la suspicion sur mon dos. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est que la plupart du temps, les menteurs, quand ils mentent, vont avoir tendance non seulement à vous regarder dans les yeux, mais à ne pas cligner des yeux en plus. C'est une tendance, rien de plus. Autre tendance, il peut y avoir un changement de rythme dans le corps, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut bouger pas mal quand il parle. Et puis, soudainement, quand tu abordes un sujet où la personne ment, la personne arrête de bouger. Elle est complètement immobile quand elle parle, ou à l'inverse, quelqu'un qui est un peu comme moi ou Yannick, qui bouge peut-être moins que d'autres dans la vie, puis là, soudainement, dans la production d'un mensonge, se met à gesticuler puis à faire ce qu'on appelle la surparticipation du surjeu. Il peut avoir ça aussi. Donc, c'est deux indicateurs, il y en a d'autres. Je ne sais pas si vous en voulez d'autres, mais.
Mais oui, il y en a d'autres.
Mais mon Dieu.
Écoute, on a plein de questions. Moi, quand je raconte une histoire qui est déjà arrivée, tu sais, ma façon à moi d'aller fouiller dans ma mémoire, c'est de me l'imager dans ma tête. Fait que je la revis. Et là, toi, tu dis, ben, quand les gens commencent à gesticuler alors que tout le temps était tranquille, moi, je commence à gesticuler quand je raconte mon histoire parce que j'ai l'impression de revivre ce que je suis en train de vous raconter.
Ouais.
Fait que si je te parle de la fois où mes enfants étaient là, en t'en parlant, je les vois, je suis capable de les situer. Puis même, je peux te dire, oui, je parlais avec Joshua, tu sais, avec mon bras.
Oh, il était à gauche
il
de
était,
toi.
Il
ouais.
était à droite ou à gauche. Tu sais. Fait que ça aussi, quand tu dis, c'est une tendance. Mais des fois, effectivement, il faut connaître l'individu ou regarder un peu, tu sais, 2 heures de vidéo pour voir, ouais. OK, de temps en temps, quand il essaie d'expliquer quelque chose, il n'est pas en train de mentir, il est en train de revoir un peu le souvenir qu'il est en train de faire en te le racontant.
Ouais. Moi, Manuel, je veux un autre exemple, mettons, juste parce que je sais que les auditeurs aiment ça, puis je suis très curieuse aussi.
Hey, Manuel, petit chum, il va manger une sacrée volée ce soir avec tous les trucs que tu donnes à
Audrey. Je prends des notes, là.
Eh bien là, c'est fabuleux, en fait, la transition, parce que Yannick, tu es extrêmement perspicace. Tu as nommé à ma place une autre des grandes tendances, c'est que normalement, quand on raconte quelque chose qu'on a vécu pour vrai, on va, pas tout le temps, mais souvent, en parler en gesticulant comme quand on était là. C'est-à-dire que tu l'as un peu nommé quand tu parles de telle personne qui était là, quand tu parlais d'un truc, puis là, tu la pointes à gauche dans tes gestes parce qu'elle était à ta gauche. Mais on peut se douter que c'est probablement la vérité parce que tu revis le truc. Tu mimes certains trucs dans ton espace quand tu le revis mentalement parce que tu le racontes. À l'inverse, quand les gens mentent et qui racontent vraiment un gros bobard là, par rapport à une histoire détaillée, par exemple, quelqu'un qui se fait coincer par la police, il va mimer certains gestes, mais il va le faire un peu en 2D, en deux dimensions. Donc, un peu comme si c'était sur une feuille de papier, puis les objets, les personnes, il les mettra pas au bon endroit quand il va faire des gestes. Donc, ça, c'est un très bon indicateur. Mais tu sais, je clôt le truc en disant, là, on a sursimplifié. Je vais dire en bon québécois, là, capotez pas avec ça, allez pas vous faire des ennemis là, en jugeant les gens avec ça. On discute là, ce matin, on s'amuse.
Ça prend plus que ça, probablement.
C'est
Là.
ça. Quand Audrey gronde petit chum à la maison puis il a les bras croisés, est-ce qu'il est tout le temps réceptif ou il l'est pas pantoute?
Ah, ça, c'est les bras croisés qui représentent la fermeture. C'est l'emblème du non-verbal. Puis en fait, c'est une croyance, c'est un mythe. C'est pas que c'est pas complètement faux, mais la plupart du temps, il y a d'autres raisons qui cachent ça. Ne serait-ce que on peut se croiser les bras parce qu'on a froid. Bon, c'est une raison assez simple. La raison la plus... L'état qui habite un individu le plus fréquemment quand il a les bras croisés, comme toi présentement, Yannick, même si les auditeurs ne te voient pas, c'est une position d'écoute confortable. Donc, tout simplement, on écoute, on est attentif, on est confortable comme ça. Il n'y a rien de plus que ça derrière ça. Et oui, environ, là, c'est dur à chiffrer, là, mais une estimation grossière, oui, environ 15-20 % du temps, ça peut représenter un manque de réceptivité ou une fermeture. Point.
Qu'est-ce qui représente le plus une fermeture de façon corporelle si c'est pas les bras croisés?
La crispation du corps. Donc, immédiatement, quand les épaules remontent, il y a une crispation. S'il y a une crispation qui n'était pas là avant, évidemment, donc sur un certain sujet, ben ça nous donne un indicateur qu'il y a du stress. Il y en a plein d'autres, mais la tension dans les doigts, quand quelqu'un se joue avec les mains ou certains tics. Mais oui, les bras croisés font quand même aussi partie d'une tendance lorsque les gens sont fermés, mais il faut décortiquer ça.
Il y a un texto qui est rentré, puis ça fait un peu un lien avec la journée d'actualité qu'on vit aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui nous dit « Bon matin à vous, votre invité doit être fasciné en observant François Legault. Est-ce que tu exerces le non-verbal sur nos politiciens? »
Quand on regarde un Donald Trump, un François Legault, un Justin Trudeau, est-ce que toi, tu te poses des questions en tant que synergologue à savoir si ces gens-là sont à l'aise, s'ils mentent, je sais pas, moi, ils essaient de cacher quelque chose? Est-ce que tu le vois, ça?
Je vais amorcer ma réponse en disant que vous n'avez pas idée de la quantité de messages privés que je reçois sur tous les réseaux pour que je décode les politiciens. Dans le temps de la pandémie, là, c'était complètement hallucinant. Là, je devais me créer des templates pour dire aux gens, là, j'ai pas le temps de gérer ça, là, tu sais. Mais moi, personnellement, je n'analyse jamais les politiciens ou à peu près jamais pour une raison qui est très simple. Je sais que c'est décevant pour les auditeurs, là, mais la raison étant que je manque de contexte. Moi, je ne fais pas dans la suranalyse. La suranalyse, c'est le pire ennemi de mon métier. Si on se met à vouloir juger les gens, tu sais, quand tu veux trouver une réponse, tu vas la trouver. Moi, si je décide qu'un politicien est un arnaqueur, un menteur ou qui fait partie d'un complot, ben je vais trouver des signaux hein, qui vont faire mon affaire. Donc, je m'empêche de faire ça parce que quand on regarde un politicien, il est enfermé dans une petite boîte qu'on appelle la télévision, là. C'est très... Très réducteur, on voit pas l'environnement, on voit pas à quoi il réagit, on n'a pas l'historique des trucs, donc je trouve ça très délicat et moi je touche pas à ça.
Dans ton day-to-day, là, quel genre de gens tu évalues? En fait, ma question, je vais même la simplifier. C'est quoi ton day-to-day, Manuel Constant? En passant, on parle avec un synergologue qui est expert du non-verbal. Toi, tu te lèves le matin, c'est quoi ta job? Est-ce que c'est des gens qui te consultent? Est-ce que c'est des dans des conférences, on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer comment tu fais ton travail au quotidien?
La réalité, c'est qu'on fait ce qu'on veut avec ça. Puis moi, j'ai choisi de me positionner différemment dans ce milieu-là. C'est que moi, je forme les gens ou je fais des conférences. Donc, moi, je veux que les gens soient outillés. Je veux faire un peu des mini-moi, là, des mini-experts quand je quitte une salle. Donc, je veux donner des outils aux gens pour qu'ils puissent lire leur interlocuteur ou mieux les cerner assez rapidement, là.
T'es comme le Starbucks des synergologues.
si on veut.
J'aime ça. Non, mais...
Il veut faire des mini-mois.
Oui, c'est cœur, hein? Ben oui. Quel pourcentage le non-verbal va occuper en communication? Parce que j'ai le sentiment, moi, quand je m'adresse à quelqu'un, ouais, que c'est beaucoup pour une première impression, le langage non-verbal.
Et la réponse était dans la question. Oui, c'est beaucoup. Après, encore une fois, c'est un mythe. Là. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent là-dedans, là, puis on les nommera pas tous. Là. Il y en a des très populaires, mais on ne peut pas chiffrer ça. Même si ça provient de certaines études scientifiques qui datent, soit dit en passant, de 1967, on ne peut pas chiffrer ça parce que dès que tu changes la situation, le moment, l'humeur, les individus qui sont là, ça change complètement la donne. Je pourrais imaginer le truc, là, mais on n'aura pas trop le temps, mais gardez en tête que le non-verbal, le langage corporel, compte, joue un rôle très, très, très majeur dans la communication humaine, mais on n'est pas obligé de le chiffrer.
OK. Fait que ça, c'est pas... C'est parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on s'y rattache beaucoup. Tu sais, je vais prendre un exemple super personnel, mais moi, quelqu'un qui me regarde pas dans les yeux quand je parle, ça me tape ses nerfs. Quelqu'un qui est plus fermé corporellement, j'ai l'impression de pas l'intéresser. Je deviens comme moi-même un peu fermé puis gêné. Tu sais, j'ai l'impression que pour moi, ça parle 90% plus que ce que tu vas me dire. Tu sais, quand on dit qu'il faut que les bottines suivent les babines, là, on dirait que pour moi, ça rentre un peu là-dedans.
Tu as raison. Moi, je pense que ça compte énormément. C'est juste que, comme je disais tantôt, d'une situation à l'autre, ça change. Je vais donner, en fait, deux exemples diamétralement opposés. Premier exemple, c'est facile de dire, là, tu sais, 93% de la communication, c'est non-verbal. Tu sais, ça, c'est le fun pour flasher dans une conférence. Moi, je fais pas ça parce que c'est pas vrai, ça se chiffre pas. Bon, premier exemple, tu gagnes à la loterie ce soir. Tiens, tu gagnes 1 000 000. Puis demain matin, tu arrives au bureau. Puis là, tu vois Yannick. Puis tu as hâte de lui annoncer la nouvelle. Mais Yannick a l'air complètement abattu. Il ne t'a pas encore parlé. Et dans son visage, dans son expression, dans son langage corporel, tu comprends que ce n'est pas le temps de lui lancer ta bonne nouvelle au visage. Là, ce qui vient de se passer là, c'est que probablement tu vas lui demander comment ça va. Donc, 100% du langage corporel a occupé l'espace parce que ça a changé le cours de l'histoire. Yannick t'a envoyé des signaux non-verbaux qui t'ont dit que c'était pas le temps de faire tel truc. Là, dans ce cas-là, c'est 100%. Mais allons à l'opposé. On est jeudi après-midi, tu te fais convoquer dans le bureau du patron. Tu arrives dans le bureau, puis il dit « Audrey, t'es slacké. Voici ton 4%. » Mais là, le non-verbal, on s'en fout. Le message, le verbal, là, les mots ont tellement de puissance. C'est ça qui est important dans le moment présent, qu'il fasse soleil, qu'il fasse pas soleil, que la personne ait les bras croisés ou pas, on s'en fout. Il t'a dit que tu étais slacké. Donc là, c'est le verbal qui est 100%. Mais en fait, on navigue entre ces deux eaux-là tout le temps. Mais on peut dire que la plupart du temps, ça a une très, très, très grande incidence sur nos relations.
Est-ce qu'il y a des spécialistes en ressources humaines ou encore est-ce qu'il y a des gens bon, qui deviennent enquêteurs? Eux, ils ont leur propre technique d'interrogatoire, c'est correct, mais pour ce qui est de la synergologie, est-ce que ces gens-là peuvent s'intéresser à la synergologie pour leur métier?
Bien, moi, des ressources humaines, j'en forme de plus en plus, vraiment là, par dizaines. Il y en a de plus en plus qui s'y intéressent et c'est très correct. Pour ce qui est des enquêteurs, je ne veux pas... scinder là, ou diviser. Ils ont leur technique à eux. C'est pas de la synergologie. La synergologie est boudée par la plupart du milieu policier. Okay.
Il y a des choses qui s'apparentent dans ce que tu m'as dit tout à l'heure quand un individu raconte son histoire, raconte son témoignage, puis l'enquêteur pose des questions. Souvent, il va se rendre compte, Manuel, que l'histoire n'est pas nécessairement vraie parce que l'individu n'est même pas capable de situer l'autre individu qui était-tu à ta droite ou il était à ta gauche? Mm. Mais si tu l'as déjà vécu, tu t'en souviens où est-ce qu'il était? Il était à droite ou à gauche? Tu sais, ce genre d'information-là, c'est de l'information hyper pertinente. Là.
Tout à fait. Puis je vais juste clore en disant que des enquêteurs, des enquêtrices policières, j'en forme par la bande qui viennent se former chez nous parce que leurs patrons ne veulent pas leur payer ça. Puis moi, les témoignages que j'ai, c'est que ça change complètement leur pratique. Ça bonifie leur intervention et leur interrogatoire. Fait qu'à partir de là, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, c'est pas, ça me concerne pas. Là.
Et on pourrait se parler toute la journée. J'ai tellement d'affaires qui me viennent en tête. Je pense au dating, je pense à le corporel dans des situations très, très, très précises. On s'en fera une jasette, Manuel Constant.
Ouais, puis d'ici là, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, la série Lie to Me parle de ton métier. Tu m'as conseillé tantôt la première saison parce que les deux autres, ils valent pas à peine. C'est diffusé sur quoi?
Sur Disney+. Disney+. Ouais, Disney+, voilà. C'est 3 saisons, mais effectivement que la première est meilleure, il paraît, que les autres.
Manuel Constant, pour les gens qui veulent en savoir plus sur la synergologie, on te rejoint comment?
Je suis accessible sur tous les réseaux sociaux, là. Je ne les nommerai pas tous. Je pense que votre préféré va faire l'affaire. Sinon, ma compagnie s'appelle Synergo, Synner, trait d'union go.com. Vous allez avoir toutes les infos là.
Merci beaucoup, Manuel. Passe une super belle journée.
Plaisir, vous aussi.
Merci.
Salut.
Bye bye. Là, avec tous les trucs qu'ils t'ont donné, pauvre chum à la maison.
Notes, ah, non, ouais. Mais je trouve ça fascinant parce que c'est tellement vrai. En même temps, on est tellement, on a ça en tête. Tu sais, moi, les gens qui détournent le regard, on dirait que je le remarquais chez les autres puis je me disais, ah, cette personne n'est pas fiable. Je trouve ça drôle de voir que c'est l'inverse de la vie d'un professionnel. On entend tellement d'affaires, puis on dirait qu'à un moment donné, plus tu l'entends, plus tu commences à le prendre pour acquis. C'est niaiseux, dans le fond, là. Mais je trouve ça particulièrement intéressant. Pour réentendre ça en passant, ça va se passer sur le blvd.fm. Là. Je vais vous mettre ça sur le site à l'instant.
Dans les prochaines secondes, on a le plaisir de jaser avec Julie Lesage. On l'appelle Julie la Texane. C'est une Québécoise qui habite au Texas depuis plus de 20 ans. Elle va nous raconter un peu comment elle a vécu ses élections hier. Je pense qu'étant au Texas, ça doit être un peu plus du côté de Donald Trump. Mais qui sait? Elle nous le dira après la pause. J'ai très hâte de lui jaser. 10h54, on s'arrête. Rage against the matin. Ben, c'est fait, ma belle Audrey. Les élections présidentielles ont été faites hier. C'est Donald Trump qui l'a emporté. 280 grands électeurs contre 224 grands électeurs pour ce qui est de Kamala Harris. Ça en prenait 270 pour gagner. Puis déjà en début de soirée, ça avait parti fort pour Donald Trump. Puis les gens disaient « Oh, il y a de fortes chances qu'il reprenne son second mandat ». C'est la deuxième fois dans l'histoire que ça arrive. C'est arrivé dans les années 1800 où un gars avait fait son premier mandat. Après ça, il était parti. Puis il l'avait refait quelques années plus tard. Je perds son nom. Ça m'en reviendra. Mais bref, le prochain président des États-Unis sera Donald Trump. Il va être assermenté dans les prochaines semaines. C'est pas tout de suite, là?
Non. C'est le 20 janvier, si je me trompe pas.
Exact.
On a parlé un peu d'entrée de jeu en émission. Là, au Québec, la mine est basse. Là. T'sais, la mine est basse au fait que ce soit Trump qui a été élu. Je pense qu'on a notre ligne de pensée sur l'individu, peu importe ce qu'on pense de l'humain. Il a été élu, il y a sûrement des raisons. Je veux dire, les Américains sont pas tous cabochons à un certain point. Puis j'avais une grande curiosité sur le pourquoi les Américains ont élu Trump. Et vous l'avez certainement vu passer ici et là dans les médias, là, Julie Lesage, qui est une Québécoise qui vient de Trois-Rivières, qui habite au Texas depuis 21 ans maintenant et qui a voté pour Trump. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que sur ses réseaux sociaux, hier, elle a mis un texte. Puis elle dit « J'ai voté pour Trump et je ne suis pas une fervente républicaine ». Ça a vraiment attiré mon attention, puis on lui parle ce matin.
On s'en va directement aux sources, au Texas. Julie, la Texane, comme on aime bien l'appeler, est avec nous. Salut Julie.
Salut.
Merci d'être là. J'imagine que toi, depuis quelques jours, là, ta vie, c'est de faire que des médias. Là.
Pas mal.
Ça doit être un asile total. Pourquoi tu étais partie aux États-Unis il y a 20 ans?
En fait, la raison principale, c'est vraiment parce que, bon, à l'époque, on était une jeune famille. J'ai un enfant qui est né avec une condition génétique quand même assez rare. C'était très difficile d'avoir des services au Québec, mais on savait qu'en allant aux États-Unis, au Texas, on était pour avoir des services beaucoup plus rapides et c'est ce qu'on a fait. Et on est resté, on a aimé ça.
Vous faisiez quoi comme métier à l'époque? Ben, vous le faites encore, là.
Ben, c'est ça. Ben, la raison pour laquelle on est venu ici, c'est parce que mon conjoint est infirmier, donc c'était beaucoup plus simple pour nous de pouvoir déménager avec ça. C'est ça. Donc, en étant infirmier, j'ai été capable dans les premières années de m'occuper de ma fille qui avait besoin de soins particuliers. Donc, lui, il travaillait dans un hôpital.
Ah, c'est très cool. Puis là, ça fait 20 ans que vous êtes là. Vous ne pensez pas revenir au Canada bientôt?
Non, on ne pense pas revenir au Canada. Bon, c'est sûr que maintenant, on a trois enfants et donc ils sont nés ici. Donc, notre vie s'est faite beaucoup au Texas.
Qu'est-ce qui fait en sorte que les Américains sont très, très près de la politique américaine? T'sais, j'ai des chums qui sont partis aux États-Unis qui disent « Yann, ça n'a pas de bon sens. » Il y a des drapeaux des États-Unis partout. Il y a des drapeaux de Kamala Harris partout. Il y a des drapeaux de Donald Trump, de la merch, en fait. Qu'est-ce qui fait que les Américains sont si près de leur politique?
Les Américains sont près de leur politique. C'est très culturel ici d'être patriotique. Donc, tu sais, très jeune, tu sais, à l'école, même mes enfants à l'école, à tous les jours, ils ont le Pledge of Allegiance, là. Donc, tous les jours, ils vont répéter ça, tu sais. C'est comme dans la culture américaine. Quand on va voir même des sports, même, tu sais, des petits sports, là, pas rien de national, juste à l'école, tu sais, tu as toujours... voyons, j'ai de la misère avec mon français, l'hymne national, bon, parfait. Et C'est vraiment ancré dans la culture américaine là, d'aimer les États-Unis. Mais ici, au Texas, on est un peu comme vous au Québec. On aime beaucoup le Texas. Donc, ici, on voit beaucoup plus de drapeaux du Texas que de drapeaux des États-Unis.
OK. Et la politique, bon, toi, tu suis ça aussi de ton côté. J'imagine que vous êtes une famille politisée. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez pris une décision ou que toi, tu as pris une décision que ça allait être Donald Trump cette année pour qui tu allais voter parce que tu le voulais comme prochain président des États-Unis?
En 2016, j'aimais pas le personnage parce que moi, j'avais comme l'impression que je voyais arriver un homme qui était pour hijacker, disons, le parti républicain avec des idées qui étaient démocrates. Parce que pour moi, Donald Trump, c'était un démocrate. On le voyait toujours avec des vedettes démocrates. Il y avait des idées démocrates. Donc, c'est ce que je pensais qu'il était pour faire. Parce que les États-Unis, c'est un pays à deux partis. Faut pas se le cacher, donc c'est pas comme le Canada. C'est très difficile d'amener un troisième parti. Donc la seule façon de faire changer l'idéologie, c'est vraiment de se faire voter à l'intérieur d'un parti, ensuite de changer un peu ce qu'on veut. Et finalement, pendant les 4 ans où il était notre président, ce que j'ai vu, c'est contrairement à quoi je m'attendais. Donc, il a voté des lois aussi, mais il a déréglementé plusieurs secteurs dans le domaine de l'agriculture, la technologie, la santé, puis même redonner, puis ça, les gens ne comprennent pas beaucoup, mais redonner le pouvoir aux États pour l'avortement. Donc, c'est maintenant. Faut voter, chaque État doit voter pour l'avortement. Et puis, je suis même pas d'accord avec ce que mon État a fait avec l'avortement, mais je suis d'accord avec la décision de Donald Trump de redonner le pouvoir.
J'ai envie de te demander pourquoi on le déteste autant, en fait, si... parce que je vais être franche avec toi, quand j'ai vu ton texte, là, puis c'est ça que je disais à Yann ce matin, tu sais, nous, ici au Québec, il y a une ligne de pensée qui est assez claire sur le personnage. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de classe pour plusieurs, c'est quelqu'un qui est criminalisé pour plusieurs. Il y a beaucoup d'incompréhension face au personnage, j'ai l'impression. Puis c'est pas un individu qu'on apprécie. Puis même moi, je vais être honnête avec toi, je me dis que c'est ce genre de personne-là qu'on avait ici au Québec, probablement que c'est jamais quelqu'un que je voudrais à la tête, tu sais. Fait que je pense qu'il y a comme une incompréhension du pourquoi il s'est ramassé là. Mais j'ai envie de te demander pourquoi, qu'est-ce qu'on n'aime pas de lui? Pourquoi on le déteste autant si toi, comme femme, t'as décidé de voter pour lui malgré tout?
Bien, je peux vous parler de pourquoi je n'avais pas voté pour lui en 2016. C'est exactement ça. Je trouvais que c'était un personnage grossier. C'était pas quelqu'un qui m'interpellait en tant que femme. Je voulais pas l'avoir comme président du tout, du tout. C'était pas une personne qui est très présidentielle dans son approche. Mais bon, j'ai dû le connaître. J'ai dû voir ce qu'il a fait, d'essayer de voir que c'était une game qu'il jouait un peu. Parce que si aussi, on entend tous les jours, hein, on nous dit que c'était un dictateur, un criminel, un raciste, et tout ça, sauf que ce que je vois sur le terrain, c'est complètement le contraire. Donc, je pense qu'on nous l'a présenté sous un mauvais côté, puis on a oublié de nous présenter les bons côtés de Donald Trump, que j'ai appris en plus à découvrir avec l'entrevue qu'il a donnée dernièrement à Joe Rogan. Donc, même si je votais pour Trump, ça fait longtemps que je sais que je vais voter pour Trump, là, avec cette entrevue-là, ça m'a fait encore, ça m'a donné plus de confiance, en mon vote.
Julie, tu fais beaucoup de médias, là. En fait, je pense que tu les as toutes faites au Québec, là, les médias. Tout le monde voulait parler à Julie, la Texane. Est-ce qu'on a quelque chose à apprendre de ça, du fait que ben, on n'a peut-être pas eu la bonne information sur l'individu ou c'est une information qui était très ciblée parce que ça faisait bien plaisir à une caste médiatique, mais le factuel n'était pas toujours là. Puis je reviens toujours, tu sais, Richard Latendresse, c'est ma tête de Turc depuis 2 semaines. J'embarquerai peut-être sur une autre tête de Turc la semaine prochaine, mais tu sais, il nous a clairement montré des fake news, là, et c'est des fake news qui étaient reconnues par tout le monde déjà sur les réseaux sociaux. Il nous a diffusé ça sur une télé généraliste pour ensuite se faire reprendre par Stéphane Bureau. Et Stéphane Bureau a dit, faut savoir écouter, puis faut être de bonne foi aussi, faut mettre l'extrait au grand complet. Je veux dire, dans l'extrait que Richard Latendresse nous montrait, il parlait d'une femme qu'il voulait voir devant un bataillon pour se faire fusiller. Et là, tu dis, voyons, ciboire, Donald Trump qui dit ça, ça n'a pas de sens. Et là, tu as un bureau qui arrive qui dit, non, 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 c'est pas... ça a complètement été sorti du contexte. Il parlait d'une femme qui, un peu comme les élites, veulent constamment envoyer des jeunes à la guerre, puis sans eux vouloir y aller. Puis il dit, j'aimerais bien la voir, elle, devant ce fameux bataillon, voir de quelle façon elle réagirait, tu sais. C'est ça qu'a dit Donald Trump. Mais ça change totalement le message, tu sais. Mm. Puis c'est pour ça que Richard Latendresse, je me dis, mais pourquoi ce gars-là est encore en place? Il a perdu toute crédibilité. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait prendre avec des fake news, puis il est encore en place. Mais tu sais quoi, Julie? J'ai l'impression qu'on le laisse en place parce qu'on pense détenir la vertu au Québec. Et un mensonge vertueux, c'est pas nécessairement un mensonge. C'est vertueux, puis c'est pour la bonne cause. Donc, on le laisse faire ces singeries-là à la télé sans le reprendre constamment. Puis heureusement qu'on a des fact-checkers comme Stéphane Bureau qui est allé à la source puis qui a sorti la vidéo au grand
complet. Absolument. Mais là, je vais me faire l'avocat du diable, par exemple, l'avocate plutôt du diable, tu sais, dans le sens que le négatif qui sort sur Donald Trump, bon, comme dans tout, il y a des vidéos trafiquées. On vit ça avec les policiers à Québec, oui. Je veux dire. Sauf qu'en même temps, le négatif qu'on entend sur lui, il l'a créé. Là. Ça sort pas de nulle part. Non plus. Là,
oui, mais quand c'est un mensonge,
tu
ne dois pas le diffuser. Tu fais partie d'un média.
Il
ne
faut pas que tu beurres plus que le client demande, si je comprends.
Exact. Trump, est-ce qu'il est parfait? Pas pantoute. T'sais, Julie l'a dit tout à l'heure. C'est un être qui est particulier, il est rustre. Parfois, il peut mentir sans aucun problème. Mais quand tu es un média, tu dois te substituer de ça. Tu ne dois pas laisser passer tes opinions si tu es un animateur de télé. Ben, mettons, Mario Dumont peut donner son opinion sans aucun problème. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais Richard Latendresse se considère comme un journaliste doit être sur le factuel, il est sur le beat de la politique américaine. Sachant que c'est un fake news, il diffuse pareil. Ben, honnêtement, si j'étais Pierre-Carl Péladeau, ce serait terminé pour moi, Latendresse. Ce serait terminé. Est-ce que tous les médias aux États-Unis sont comme ça aussi?
Non, mais on a quand même une couverture qui est biaisée. C'est là que ça montre que c'est une victoire pour les médias alternatifs. Donc, les Américains ont cru bon d'aller chercher l'information ailleurs, de faire leur propre opinion, et en allant chercher des médias alternatifs. Je comprends pas pourquoi je fais des publications sur Facebook que la majorité des Québécois sont pas capables de lire ce que je mets. Ça l'ajoute à justement cette espèce de couverture biaisée qui nous montre toujours Donald Trump comme étant un monstre quand on présente absolument rien de bien sur lui. C'est ça qui se passe.
Je vais te poser la question inverse. Pourquoi tu n'as pas voté pour Kamala Harris?
Bon, Kamala Harris, premièrement, démocrate, je ne suis pas très démocrate, c'est une des raisons en fait pour laquelle je suis partie du Québec. Bon, je ne suis pas très de gauche, mais j'accepte quand même des gens. Donc, moi je suis pour que les États gardent leur personnalité. Donc, ce que je retrouve ici, puis ce que j'aime du Texas, je le retrouverai probablement pas en Californie, mais je trouve ça bien qu'on puisse avoir le choix. Kamala Harris elle-même, elle ne m'a jamais interpellée. Je trouve ça... et c'était un choc pour moi, une grande surprise de savoir que c'était elle, notre candidate, parce qu'elle a été cachée pendant 4 ans. On ne l'a presque pas vue. Elle n'était pas très populaire au sein de son propre parti. On a essayé de nous la présenter. On a vraiment essayé de la pousser de l'avant, mais je pense qu'elle n'a pas fait un bon travail. Elle n'a même pas été capable d'aller chercher les femmes. Parce que moi, j'avais peur justement que les femmes sortent voter pour une femme parce qu'on veut tellement avoir une femme à la Maison-Blanche. Mais ce n'est pas arrivé. Donc, elle n'a même pas été capable d'aller chercher les femmes. C'était juste une erreur de la mettre là.
Ouais. Mais à l'intérieur même du Parti démocrate, c'était pas la candidate espérée. Là. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'elle n'a pas été élue. Ça va permettre au Parti démocrate de se retravailler de l'intérieur puis de présenter des candidats peut-être un peu plus, des candidats ou des candidates peut-être un peu plus de qualité. Parce que comme tu l'as dit, étant vice-présidente des États-Unis pendant plus de 3 ans, elle n'avait pas de bilan à présenter, si ce n'est que le bilan de Joe Biden. Puis les choses sur lesquelles elle aurait dû se concentrer, elle ne les a pas fait. C'est une candidate qui était très faible, pas capable de faire des discours sans téléprompteur, pas capable de faire des entrevues sans avoir peut-être de l'info avant ou même pendant les entrevues pour savoir quoi dire, quoi faire. Quand un journaliste il parlait de son programme, elle disait au journaliste « Mais allez sur mon site web ». Je veux dire, c'est quand même de base de connaître ton programme. Fait que la bonne nouvelle pour le Parti démocrate, c'est qu'ils vont se refaire de l'intérieur. Puis moi, la bonne nouvelle, c'est que dans 4 ans, j'entendrai plus parler de Donald Trump. Ce sera peut-être des gens plus jeunes qui vont prendre place. Je pense à son co-listier qui semble être franchement intéressant, là, Tim Walz, qui a des choses à dire, qui s'exprime bien, qui n'a pas autant de scandales que Donald Trump. J'ai bien hâte de le voir passer, lui, aux prochaines élections. Je suis pas mal persuadé que ça va être le candidat idéal.
On prend 4 ans pour remettre le pays dans le droit chemin. Puis ensuite de ça, les deux partis vont devoir présenter des candidats intéressants. J'espère de voir enfin des candidats intéressants parce que j'ai comme l'impression que ça fait une couple d'années là, qu'on nous présente à peu près n'importe quoi. Puis ensuite de ça, on verra pour le futur.
J'ai dit Tim Walz, c'est celui de Kamala Harris. Celui de Donald Trump, le
Vance.
C'est Jimmy Vance, voilà. Voilà, on s'est démêlé. Merci beaucoup. Julie, ça a été un plaisir de jaser.
Ça m'a fait plaisir.
Bye bye. Julie Lesage, qui est une Québécoise qui habite au Texas depuis plus de 20 ans, qui, elle, a dit qu'elle avait voté pour Donald Trump pour telle raison qu'elle nous a expliquée.
Très assumée, là, absolument. J'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais, son texte, en passant, si jamais vous voulez aller le lire, là, c'est sur son profil. Là, c'est Julie Texane Lesage. Hein? J'ai voté pour Trump et je ne suis pas une fervente républicaine. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle nous amène des faits du pourquoi elle a décidé de rediriger son vote vers Donald Trump, puis j'ai le sentiment, puis je m'embarque là-dedans, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'homme pour des raisons super valables, mais sans même connaître exactement c'est quoi le programme, puis c'est quoi ses intentions, ses promesses, fait que je trouve ça intéressant, bref, d'avoir le côté peut-être un peu plus factuel avec Julie. Là.
Ouais, J.D. Vance, c'est le co-listier de Donald Trump, puis c'est un personnage qui est franchement intéressant, s'exprime beaucoup mieux que Donald Trump, est beaucoup plus jeune, père de famille aussi, franchement intéressant, fait que lui, ça va être un candidat qu'on va apprendre à découvrir au fil du temps. All right, restais-tu d'autres choses à jaser?
J'ai peut-être breaking news. Ben, en fait, on vient d'apprendre malheureusement le décès de Lucien Francœur. On vous en a beaucoup jasé dans le retour, entre autres, dans les dernières semaines. Là. Il est décédé à l'âge de 76 ans. Lucien Francœur, mon Dieu, qu'on connaît pour tellement de choses, mais entre autres, à la fondation du groupe Autre Chose. D'ailleurs, là, petit documentaire sur tout.tv, si jamais ça vous intéresse. Francœur, on achève bien les rockeurs. Denis en avait tellement parlé en ondes. Il est sur ma liste depuis quelques semaines. C'est sorti l'an passé, puis c'est dans l'œil de sa fille, en fait. Il a un parcours assez unique, cet homme-là, on va se le dire, là. Et sa fille, Virginie, a comme décidé, à travers un périple père-fille vers la Californie, de renouer avec les racines familiales, les sources d'inspiration aussi de Francœur. Fait qu'il paraît que c'est super intéressant. On savait qu'il était malade déjà depuis un moment. Donc, Lucien Francœur qui est décédé à l'âge de 76 ans.
Ouais, c'est triste. Il y a beaucoup de décès ces temps-ci. C'est-tu avec l'arrivée de l'automne? Parce qu'on voit ça souvent avec l'arrivée de l'automne puis après les fêtes.
Oui, c'est une bonne question. Je sais que l'année 2024 en a été une grosse en frais de décès. Là,
mais... Ça dépend à quoi vous croyez. Moi, je crois à rien, mais les médecins nous le mentionnent. C'est qu'il y a beaucoup de décès après les fêtes. Les gens veulent passer les dernières fêtes puis après ça, ils se laissent partir.
Peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus ésotérique là-dedans.
Ésotérisme expérimental.
Oui, mais lui était, de ce que j'ai compris, puis là, je veux pas m'avancer, je n'ai pas les faits, là, mais de mémoire, il était malade depuis un bon moment. Là. Il me semble qu'on parlait de avant Noël passé. Là. Fait que j'écoute, parce qu'on a essayé de l'avoir en entrevue, Lucien Francœur, puis on nous a comme fait comprendre là, avec l'entourage de la famille que c'était pas quelque chose qui était possible.
Ouais.
Même si on voulait, là, c'était pas possible. Fait que j'ai comme l'impression que ça faisait un moment qu'on savait qu'on était vers la fin.
Puis Herbie Moreau, ça commence à se clarifier. Là. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est un cancer de la gorge?
Oui, mais c'est les rumeurs, effectivement, qu'on entend. Et, c'est sûr que là, sur le coup, il y a plein d'affaires qui sont sorties. Là, on parlait de mille et une maladies. Il y en a qui avaient parlé de thèse, de... C'est ça, en fait, chaque fois qu'il y a des artistes qui décèdent, là, jeunes, on dirait, là, il y en a qui avaient parlé de thèse de suicide. Il y a beaucoup de choses qui étaient venues sur la table, mais oui, on parle de maladies de plus en plus des dernières affaires que j'ai lues, là, effectivement. Vas-y, excuse-moi.
Mais c'est ça, c'est cancer de la gorge, mais tu sais, quand ça meurt jeune de même...
Ben, c'est perturbant.
Puis on n'avait pas entendu parler avant, tu sais. Bien souvent, il y en a qui...
Ça, c'est la maladie, vont le dire.
Richard Martineau, qui est un de mes anciens collègues, que j'aime bien, là. Tu sais, Richard a pris la peine de le dire. Savez-vous quoi? J'ai le cancer, puis il faut que je me fasse opérer.
Ouais.
Bon, il y en a qui dit, il y en a peut-être trop montré. effectivement, il y en a peut-être un peu trop montré. Là.
Bon, moi, tu vois, j'ai trouvé ça divertissant.
Ben, moi, voir le poil en dessous du nombril, là, c'était comme un peu too much. Là.
Ah, mais c'est le personnage.
Mais lui, il l'a annoncé, tu sais, j'ai le cancer, puis il a vécu ça publiquement.
Oui.
Herbie Moreau, il
ouais.
n'y a personne qui était au courant qu'il avait le cancer.
Non, mais c'est ça. Je suis en train de regarder si on n'a pas des nouvelles supplémentaires sur exactement ce que c'était.
Il n'y avait rien de ça. Du coup, bref, les rumeurs, c'était qu'il avait malheureusement le cancer de la gorge, puis il a malheureusement été emporté à l'âge de 50 quelques années. C'est jeune en sacrifice. Puis plus tu vieillis, moi je vieillis, là. Tu sais, puis j'ai dépassé l'âge de mon père, là, quand il est mort. Puis j'ai rencontré des gens qui ont eu des parents qui étaient décédés quand ils étaient très jeunes. Puis c'est weird, là. Puis je sais pas si
t'as-tu l'impression d'être chanceux?
Parler de ça. Mais tu te dis, hey, mon père est mort, genre, à 40 ans.
Mm.
Fait que là, toi, t'as 37. Puis là, tu te dis, il me reste 3 ans à vivre.
C'est capoté, hein?
Ça parce que maintenant qu'il est mort d'une maladie,
ouais, ouais, ouais.
Tu te dis, tu sais, moi, c'est mon père. Fait que je partage le même ADN que lui. Fait qu'il me resterait genre 3 ans à vivre. Ça me trottait dans la tête, ça.
Ça te trotte encore dans la tête?
Ben non, ben je l'ai dépassé, là.
Ben oui, je comprends que tu l'as dépassé, mais tu te trouves-tu chanceux? Est-ce que tu as l'impression que tu vas mourir jeune?
Je me trouve chanceux quand je vois des gars puis des filles qui décèdent de maladie à 25-30 ans.
Ouais.
Tu sais, on sait jamais là, quel coupon qu'on pige là, pour la santé. Il y en a qui ont fait de l'activité physique toute leur vie, qui n'ont jamais fumé, qui n'ont jamais bu, qui n'ont jamais exagéré dans rien. Pouf, cancer.
Ouais,
ça pop d'un bord, puis ils quittent à 27-28 ans. Je trouve ça atroce. Fait que je me dis, écrif, OK, moi, je vieillis en âge, puis je suis encore en santé. Bon, j'ai mal au dos un peu, là, mais je suis encore en santé.
Oui, mais tu es un gars en shape, c'est ça. Il faut aussi prendre soin de notre santé.
Mais
on a un certain rôle à jouer.
Le nombre de personnes qui m'ont dit, écrif, Yann, ça me restait dans la tête, moi aussi. Tu sais, quand ton père meurt à 30 ans, puis là, toi, t'arrives à 28-29 ans, puis ton père est décédé à 30 ans, tu te dis, écrif, il m'en reste pas long. Puis là, à un moment donné, tu commences à le dépasser, puis tu commences à oublier ça. C'est drôle, les conceptions qu'on se met dans notre tête. Là.
Ouais.
Ça n'a aucun lien. Là. Tu parles avec un médecin, quand t'as 10 ans, tu dis, hey, mon père est mort à 20 ans, je vais-tu mourir à 20 ans? Le médecin va dire, ben voyons, mon garçon, tu sais, ça t'arrivera jamais. Mais si tu rencontres pas personne, ça va te rester dans la tête pendant des décennies.
C'est comme des petits traumatismes qui sont pas si gros, mais qui forgent quand même un peu ta pensée. Là. Puis je comprends totalement. Là, ça sent... Ben, en fait, je sais pas si je veux aller là, mais t'sais, cette année, on vous a parlé d'une amie puis d'une femme qui a été dans les médias, t'sais, Véronique Lévesque, qui est quelqu'un que personnellement j'aimais beaucoup. Puis, tu sais, elle, quand elle est décédée enceinte, c'est pas un secret pour personne. Ouais. Mais,
ah,
c'est
un petit bonheur sur deux pattes. Là.
Ah, vraiment, mais ouais. Je sais que ça, à travers les discussions, je sais que ça a marqué beaucoup de gens se dire oh mon Dieu, jeune comme ça,
ouais.
Ça peut arriver à n'importe qui, ça te crée après ça des peurs, on dirait. T'sais. On dirait que tu réalises que ça peut arriver. Puis là, je pense aussi à l'ami de Jeff qui est décédé, dont tu vous as tant jasé, c'en était une, ça, qui était très, très, très en forme, Catherine, puis qui nous a quittés comme ça. Fait que tu te dis, ben, je prends soin de moi, mais même si je prends soin de moi, c'est parce que ça peut arriver quand même.
Ouais,
si
tu peux t'aider aussi. Fait que là, j'essaie de manger de la salade plutôt que de manger de la pizza congelée. Mimi qui nous écrit, salut, mon père est décédé il y a ça une semaine après avoir fêté ses 42 ans du cancer. J'ai 39, puis je te comprends.
Imagine.
Ah, il pense aussi.
Mm-hmm, absolument.
Qu'est-ce qu'il dit, Pat? On me dit, puis il y a Ozzy Osbourne. Qui a ouais. abusé de la vie ouais. comme pas possible.
Ah, mais ça, c'est quelque chose qu'on comprendra jamais, tous ces rockers-là qui ont défait leur corps avec de l'alcool, de la drogue, puis qui sont encore debout. Là, ça, c'est un mystère.
Ben, Mick Jagger, là.
Ah, c'est un mystère.
Je veux dire, il est relativement encore très en forme aujourd'hui. Là.
C'est complètement fou. Puis toi, puis moi, on fait ça le même matin, ça va pas pantoute, là.
Non, puis tu sais, hier, j'ai rencontré l'opposé de Mick Jagger. Tu sais, ben là, c'est encore. C'est un beau bonhomme. Marcel Bouchard. Il a 72 ans.
Mm-hmm.
Il est plus en forme que tous les gars de 40 ans qui sont dans mon entourage. C'est un bonheur, Marcel. Il arrive, ça, c'est l'énergie qui rentre dans la pièce. Puis là, j'ai dit, tabarouette, tu t'entraînes encore. 72 ans, encore en shape.
C'est malade, là.
Puis il y en a comme Ozzy Osbourne qui ont abusé comme pas possible, qui sont encore en vie. Bon, au niveau cognitif, on sait plus, là.
Oui, ça, c'est notre affaire, par exemple.
Ouais.
Est-ce qu'il l'a déjà été, par exemple, au niveau cognitif? C'est une question qui est très valable, tout court, je pense.
Petit potin pour ce qui est d'Ozzy Osbourne, quand il était passé à Québec. Là, je peux le dire maintenant parce que les deux personnes sont décédées. Mais la femme qui s'occupait de la chambre d'Ozzy Osbourne faisait le ménage avant puis après le départ, puis était sur l'étage. Puis il y avait un agent de sécurité qui était toujours en face de la chambre d'Ozzy Osbourne. Puis c'était pas pour la sécurité d'Ozzy Osbourne, c'était pour l'empêcher de sortir le soir de sa chambre.
Mais voyons!
Oui, pour pas qu'il se perde dans
j'avais
l'hôtel.
J'avais jamais entendu ça.
C'est sa femme qui était là, qui était à Québec, qui l'accompagnait, était à l'hôtel, puis elle a demandé spécifiquement, parce qu'ils dorment pas dans la même chambre, là, ça a l'air qu'ils ont pas le même rythme de vie, là, le même rythme circadien.
Ah, eh bien!
Puis elle a dit, ça me prend un agent de sécurité qui va être à la porte pour pas qu'il sorte de sa chambre.
C'est fascinant.
Ça aurait été capoté, hein? Tu vois Osborne marcher tout seul sur la grande allée en nuisette.
Le rêve.
Le rêve.
Ça aurait fait laisser ta potin.
Hey, on s'en jase demain 10h.
Absolument.
Salut tout le monde. Sinon, ben après la pause, Pascal CV s'amène pour Marceau le midi.
Salut. Bye.